Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Vendredi 11 et samedi 12, une ZAT va à nouveau faire vibrer un quartier de Montpellier. ZAT comme zone artistique temporaire, une invention montpelliéraine, que ce foisonnement de multiples formes d'expression. La créativité se donne libre cours, les découvertes prennent place, les rencontres entre artistes et artisans occupent les espaces publics. La ZAT 2022 a lieu à Antigone, manière de marquer les 40 ans du quartier. ZAT Antigone comme la première édition en 2010. Puis sur la carte de la ville, la ZAT a planté sa bannière au domaine de Méric, à Port-Marianne, à Celle-Neuve, aux Arceaux, à Lamosson-la-Paillade, à Boutonnet-Beaux-Arts, au Parc Malbosque, au Grisette, à Figuerolles, au Parc Morcalme, auprès d'Arennes et enfin dans l'Écusson. Ce fructueux parcours a été stoppé depuis 3 ans, il reprend de plus belle. Pour nous donner envie d'aller à Antigone, jeudi et vendredi et samedi, et pour nous dire quelle ambition cette manifestation atypique porte en elle, j'ai invité Pascal Lebrun-Cordier. C'est l'interlocuteur adéquat, directeur artistique des 8 premières éditions. Il a repris le flambeau cette année pour la relance des ZAT. Pascal Lebrun-Cordier, bonjour et merci. J'indique que vous êtes professeur associé à l'École des arts de la Sorbonne Paris 1 et directeur du master projet culturel dans l'espace public. Ainsi, et je crois que c'est tout l'intérêt de vous entendre, vous êtes à la fois théoricien et praticien de l'art dans l'espace public. Alors, conformément à formule d'émission, racontez-nous votre Montpellier. Vous habitez alternativement à Montpellier et à Paris, donc à la fois montpelliérain et parisien. Qu'est-ce que votre manière de caractériser la ville? Quel est le style de Montpellier? Comment, quand des amis viennent se balader à Montpellier, qui ne connaissent pas un peu, vous leur parlez de Montpellier? En quoi cette ville, je dirais, se distingue-t-elle?
Alors, mon prisme pour parler de Montpellier, ce sont les ZAT, évidemment, parce que à chaque édition, je m'immerge dans un quartier, je vis dans le quartier, j'installe mon bureau dans le quartier, c'est-à-dire à la terrasse des cafés, essentiellement. Hein, je passe la plupart de mon temps assis à la terrasse des cafés, à discuter avec les gens, à ouvrir mon ordinateur, à lire, à écouter, à regarder. Et donc, pour moi, Montpellier est à la fois une et plurielle. Montpellier, de manière générale, c'est évidemment une ville très dynamique, très créative, très engageante. C'est l'image qu'elle a, mais c'est aussi une réalité de cette ville hein, qui est très jeune, beaucoup d'étudiants. Il y a une énergie particulière qui me plaît beaucoup à Montpellier. Montpellier est autour de Montpellier. Donc là, on change d'univers, mais il y a aussi évidemment l'attrait du littoral, et puis, de manière générale, voilà, la région tout autour. Donc ça, c'est Montpellier dans sa généralité. Mais très vite après, évidemment, moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai vécu, ce que je vis encore aujourd'hui, c'est Montpellier dans sa diversité, c'est-à-dire des quartiers, des zones de Montpellier que je connais très bien pour y avoir habité, pour y avoir organisé des ZAT, que je connais d'une manière particulière. Parce que vous l'avez dit, je vis une semaine sur deux à Montpellier. Je vis en ayant un objectif qui est de construire une ZAT. Et donc, je suis enquêteur. Je suis un enquêteur en permanence, en train de regarder, d'écouter, d'observer, attentif à l'infraordinaire de la ville. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas trop quand on est habitant depuis des années dans un quartier. Hein.
Un petit œil neuf ou un petit pas de côté.
Exactement.
Pieds sur le trottoir, si j'ose dire, un pas de côté pour apporter ce regard plus aigu.
C'est une belle formule. C'est-à-dire que j'ai effectivement un pied dans le quartier au sol et puis un pied en l'air, si je puis dire, et la tête en l'air ou les oreilles qui traînent parce que je cherche à capter, en fait, dans mon enquête sensible que je mène pendant plusieurs mois, je cherche à capter ce qu'il y a de singulier, d'étonnant, d'intéressant, qui pourrait nous servir de fil conducteur pour organiser la ZAT, puisque chaque édition est thématique, il y a une saveur, une couleur. Et donc, les 8 premiers quartiers que vous avez cités, d'Antigone à Méric, à Malbosque, pardon, je peux en parler à chaque fois de manière très précise, telles que je les ai perçues, vécues, ressenties, telles que je les ai rêvées aussi, telles que je les ai fantasmées, telles que je les ai captées.
Et... Mais je vous coupe, parce qu'il y a une espèce de travail sociologique, en quelque sorte, enfin de regard en profondeur, fût-ce pour un événement éphémère, qui pourrait donner lieu à quelque chose, je ne sais pas quoi, une espèce de somme, quoi. Je ne sais pas quoi, un livre, une expo, je ne sais pas.
Alors, j'avais commencé à faire ça, j'avais commencé à raconter les dates, en fait. Ce qui est un exercice compliqué, mais je voulais raconter les fils que j'avais... Alors, je prends des notes, j'ai des cahiers partout, je colle des papiers, j'écris, je dessine beaucoup aussi. Et ces cahiers, en fait, ces carnets de bord, ils racontent sur la durée quelque chose d'intéressant. Mais au fond, ça, ce qu'il faut surtout voir et vivre, c'est les dates. Donc, c'est un travail d'enquête sensible. Et c'est une enquête qui prend un peu quelque chose de la psychanalyse, c'est-à-dire écouter ce qui ne se dit pas, regarder ce qui n'est pas visible, s'intéresser à ce qui n'est pas là, ou être attentif à des détails qui vont s'avérer signifiants, mais qui ne le sont pas au premier abord. Voilà, c'est pas une enquête sociologique au sens classique du terme, c'est plutôt une enquête poétique, un peu comme les situationnistes... les faisaient dans le cadre de leur dérive, ou comme André Breton, lorsqu'il était en train d'écrire Najda, arrivait à capter le hasard objectif, comme il l'appelait. C'est l'œil du photographe aussi, je fais beaucoup d'images, qui va, pareil, être attentif à des détails, à des situations, à des fantômes. Moi, je suis beaucoup à la recherche des fantômes dans les quartiers.
C'est-à-dire l'envers du décor, peut-être, ou les absences, mais qui sont malgré tout présentes,
oui.
Et qui, au-delà de la quotidiennité, de la banalité du quotidien.
Exactement. Je vais vous donner un exemple. Quand c'était la 4e édition, je crois, ou 5e, quand on est allé à Boutonnet-Beaux-Arts, d'abord, c'est le premier quartier. On avait annoncé dans la presse qu'on allait faire la ZAD suivante là-bas. C'est la première fois que des gens me contactaient, des assos de quartier. Ouais. Et là, déjà, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et donc, je suis tout de suite allé les voir, évidemment. Et tout de suite, j'ai compris que c'était un quartier, je le savais déjà un petit peu, bien sûr, mais que c'était un quartier extrêmement dynamique avec des initiatives citoyennes très fortes. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a très vite intéressé à Boutonnet-Beaux-Arts, au Beaux-Arts, pour être plus précis, dans la partie Beaux-Arts, c'est que j'ai appris qu'il y avait eu un abattoir. Et j'ai encore croisé, d'ailleurs, quelqu'un, il y a 2 jours, du quartier, avec qui j'ai longuement discuté, qui a connu l'époque des abattoirs. Et je me suis dit, c'est étonnant parce qu'il n'y a plus une trace des abattoirs. C'est-à-dire qu'on a installé l'école des Beaux-Arts, la place des Beaux-Arts, on a effacé le sang des bêtes qu'on égorgeait pour produire de la viande, et tous les signes ont été évacués, et on a mis à la place une école des Beaux-Arts. Et je trouvais ça intéressant qu'on mette l'art, les Beaux-Arts, à la place de cette activité terrible qu'on ne veut pas voir, qui est l'abattage des animaux, qu'on éloigne des villes généralement. D'ailleurs, le fait qu'à l'époque, c'était quasiment dans l'Écusson, enfin juste à côté de l'Écusson, c'est des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. On ne veut plus voir la transformation de l'animal en viande. Bon.
Et donc, confidence, je suis particulièrement sensible à ce propos parce que je suis né dans un abattoir.
Vous êtes né dans un abattoir.
Mon père était concierge et receveur, à Castelnaudary, en l'occurrence.
Incroyable.
Et donc, du coup, j'étais frappé de ça. C'est qu'il y a un effacement, parce que ça ne fait pas chic, ça ne fait pas technopole, l'abattoir.
Et non, comme
et
vous dites.
C'est passé à l'as, et il n'y a même pas eu, effectivement, une trace du passé, une boche pas quoi, un lieu.
Et alors, justement, ce que j'ai voulu faire à Beaux-Arts, c'est de rappeler cette histoire. Donc, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, tiens, on va faire brouter des vaches à l'endroit où il y avait l'abattoir, c'est-à-dire sur la place derrière. Et donc, on a mis un certain temps avant de trouver un éleveur qui a accepté de venir avec 2 vaches. Ensuite, avec Michel Arbatz, on a contacté Jean-Louis Trintignant. Et avec Michel Arbatz, il y avait la rue de la Poésie. Donc évidemment, tout de suite, je me suis dit, on va faire de la poésie dans la rue de la Poésie, qui n'est pas très poétique en tant que telle, cette rue d'ailleurs. Donc Michel Arbatz avait imaginé un spectacle au balcon où des comédiens lâchaient depuis les balcons des poèmes. Et donc avec Jean-Louis Trintignant et Michel Arbatz, et un guitariste dont le nom échappe subitement, Olivier Roman, un spectacle a été inventé sur les vaches qui s'appelait Vacherie. Et il n'y avait pas que ça. J'avais trouvé des images incroyables d'un Anglais qui fait des petites animations avec des vaches qu'on avait projetées sur les murs. Je crois qu'il y avait encore un ou deux autres projets. Et pour moi, c'était très important de raconter les Beaux-Arts au-delà de la carte postale que tout le monde connaît à Montpellier. Quartier extrêmement sympathique, des artistes, la place des Beaux-Arts, les cafés, etc. De rappeler des choses aussi comme les vedettes. Un café où les employés voilà, il y a l'autre café aussi où c'était plutôt les cadres qui allaient déjeuner donc, et puis griller la viande dans la rue, etc. Donc tout ça pour moi c'est intéressant à raconter parce que ça a été effacé et ça fait partie de l'histoire du quartier. Il faut gratter, alors on n'a pas raconté que ça, on a raconté beaucoup d'autres choses aux Beaux-Arts. Et pour finir là-dessus, le thème principal c'était do it yourself en français. Donc, faisons nous-mêmes les choses. Parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, comme tout le monde le sait à Montpellier. Les fanfares, dans une rue, on a plein d'artistes qui travaillent, on a plein d'associations, il y a une dynamique incroyable, l'association Boutonnet Beaux-Arts, etc. Donc, en fait, la ZAD entière, elle n'était pas exactement sur les abattoirs, hein, mais c'était une partie de la ZAD, elle était sur la question de on fait les choses à la main, on se prend la main. On met la main à la pâte, c'était la main et le do it yourself et do it with others, c'est-à-dire faisons ensemble les choses qui étaient le thème principal de cette
zone. Pour mettre en mouvement.
Exactement. Pour révéler cette singularité première du quartier, sans oublier encore une fois cette histoire effacée dont j'ai parlé tout à l'heure, le sang des bêtes qu'on a cherché à effacer totalement comme dans Macbeth de Shakespeare. Donc c'est un peu ça mon rapport à Montpellier, voilà. c'est une enquête.
C'est un exemple, passionnant de revenir sur les anciennes ZAD, en tout cas celles que vous avez conduites. Venons-en à la ZAD 2022, quel est l'axe principal, quelle est la direction. Alors, la directeur artistique, on imagine qu'il peut y avoir une direction. On a compris, avec l'exemple que vous avez dit, comment vous travaillez, dans quel état d'esprit, dans quelle imprégnation. Comment vous vous nourrissez de ce que vous captez du quartier, par vos contacts, par vos regards, etc. Et donc, voilà, pour la ZAC Antigone, deuxième ZAC Antigone, mais ce quartier emblématique le mérite probablement, en tout cas, il fête ses 40 ans. Quel a été, je dirais, le fil conducteur du programme dont nous allons examiner, en tout cas, les principales caractéristiques?
Alors, là, on va effectivement raconter le quartier. D'abord, quartier extraordinaire dans l'histoire de l'urbanisme, dans l'histoire de Montpellier en particulier. Donc on a un focus sur Antigone le quartier avec deux expositions. L'une d'ailleurs qui est faite par l'ADRA, l'association du quartier, Place du Nombre d'Or, et l'autre qu'on a conçue avec les archives de Montpellier avec des documents inédits de Ricardo Bofill, des dessins, des croquis. On comprend d'ailleurs quel a été son cheminement, on voit des esquisses de projets qu'il a mis de côté, on voit comment il cherche finalement à relier le centre, l'Écusson, au Lez, à faire un quartier de grandes places, de perspectives, d'espaces publics, quartier aussi de logement social. Et donc cette expo est formidable pour comprendre l'histoire du quartier. On a beaucoup de photos du chantier aussi. Donc
c'est inédit, ça n'a jamais été particulièrement montré.
Alors, non, effectivement.
Il y a quelques images où on voit le maire, on voit Raymond Dugrand, l'agent de l'urbanisme.
Vous connaissez
et
cette
José
photo.
Roman, le directeur des services de l'époque. Quand c'était un terrain vierge libéré par l'armée, mais là, le cheminement intellectuel de Bofill, à ma connaissance, il n'a jamais été montré dans le détail.
Non, effectivement. Alors, on avait un peu montré ça en 2010 déjà. Hein. On avait déjà fait une première expo. Vous parlez de cette photo là qui est très amusante parce qu'on voit aussi le style de l'époque. On voit l'élégance de ces personnages que vous avez cités en costume blanc. Donc, on a cette exposition avec des dessins, des documents d'archives. On a des visites d'architectes également dans le quartier, des balades urbaines. On a, bien sûr, les spectacles qui vont révéler quel écrin extraordinaire est Antigone sur ces différentes places, aussi par des biais détournés. On a une manière d'occuper l'espace public qui est justement contextuelle, c'est-à-dire qui va dialoguer avec la ville. On va prendre de la hauteur aussi en étant hissé à 15 ou 20 mètres du sol dans le ciel d'Antigone avec la compagnie Retour à Mont. On a les installations de feu de la compagnie La Machine. C'est une scénographie, pareil, qui magnifie l'architecture. Donc Antigone, le quartier, on va beaucoup en parler. Puis Antigone aussi, le personnage de la mythologie grecque.
La rebelle,
exactement. Antigone, On a parfois étudié son histoire au lycée, quand on a étudié le texte de Jean Anouilh ou Sophocle, où on l'a vu au théâtre, ou parfois on ne connaît pas du tout d'ailleurs l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est un des personnages les plus importants de notre imaginaire culturel, de l'histoire du théâtre, de la mythologie grecque. C'est une femme qui dit non, qui refuse d'obéir au pouvoir. Voilà, c'est une figure de la désobéissance civile. Au nom de sa conscience morale, elle refuse la loi. Et elle refuse aussi d'obéir aux hommes. C'est aussi une figure féministe.
À son père et aux hommes en général.
Exactement. Alors... à son oncle, exactement, Créon. Mais on va aussi raconter son histoire et on va se demander qui est Antigone aujourd'hui, en quoi elle nous parle aujourd'hui. On fait une rencontre là-dessus. Donc Antigone, le quartier, Antigone, le personnage, et puis ensuite on a Feu, Fête et Futur.
Donc, voilà, ça c'est les trois repères, voilà. Mots emblèmes, je ne sais pas comment les définir.
Oui, exactement. Et le feu, donc je l'en ai dit un mot déjà, on va allumer des milliers de flammes chaque soir dans Antigone avec la compagnie La Machine.
Il y a aussi un feu le vendredi soir, le samedi soir.
Exactement, à partir de 17h30, 18h. Voilà, des bûchers, des braseros autour desquels on pourra se rassembler. Et puis on a un feu d'artifice le samedi à 20h30. Ensuite, la fête, il y a beaucoup de spectacles festifs, de la danse, du théâtre, de la musique, des spectacles participatifs, notamment le spectacle d'ouverture avec 100 interprètes, Tragédie Antigone, vendredi à 11h30.
Place du Nombre d'Or.
Place du Nombre d'Or. Donc je ne vais pas développer parce que le programme est très riche et on n'aura
pas
le temps.
On a envie que vous nous alléchiez, vous avez commencé à lever le voile là, sur des rendez-vous significatifs ou novateurs, quelques autres exemples.
Alors oui, sur la fête par exemple, on va dire un mot de Bien Parado. Ça c'est la Sévillane, la danse que l'on connaît, sur un tempo électro. Et c'est un spectacle vraiment électrisant de la compagnie La Méandre. On a des block parties également, donc ça c'est les fêtes de rue américaines qu'on va faire à plusieurs endroits dans le quartier également avec le collectif Radio Caseman. La fête, pardonnez-moi, la fête elle prend une très grande diversité de formes, c'est aussi parfois une fête plus intérieure, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le futur. Comment faire face aux défis du futur? Comment forger le futur? Là, je voudrais dire un mot du navire à venir. C'est le prochain bateau d'SOS Méditerranée. C'est un collectif d'artistes.
En pleine actualité, comme on le sait, ce sujet, oui. Avec ce qui se passe avec un bateau de SOS Méditerranée qui s'est trouvé en port sûr.
Exactement.
Pour débarquer des gens qui attendent depuis plusieurs semaines au large.
Et donc là, c'est un collectif qui réunit une cinquantaine d'écoles en Europe et en Amérique du Sud, des professionnels du design, de l'art, de l'architecture navale, le MUCEM, les hôpitaux de Marseille, enfin, il y a un grand réseau de partenaires, et ils sont en train de construire le prochain bateau de sauvetage en haute mer pour SOS Méditerranée. Pendant la ZAT, vendredi à 14h, place de l'Europe, esplanade de l'Europe. Évidemment, j'ai choisi cette place pour ce projet à dessein. C'est une manière de montrer une direction pour l'Europe que nous souhaitons, beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire une Europe plus hospitalière, qui refuse de laisser se noyer des femmes et des hommes qui tentent de traverser, et des enfants qui tentent de traverser la Méditerranée. Donc là, c'est une performance qui va être faite à 14, 15, 16, 17 heures vendredi sur l'esplanade de l'Europe. On va tracer en fait les contours du navire à venir. On a aussi, dans le chapitre futur de cette ZAT, plusieurs projets autour du lèse. Le lèse se révolte, le lèse n'en peut plus, le lèse nous parle et on va essayer d'écouter le lèse.
Le lèse comme mythe ou comme...
Alors, comme une entité vivante, et on est en train de changer de regard sur la nature depuis quelques années. Aujourd'hui, on considère que c'est le vivant, en fait, le sujet. Et donc, vous savez que beaucoup de fleuves sont aujourd'hui des personnalités juridiques, ont une place dans le débat politique public, dans la scène publique et politique. Et c'est un peu ce qu'on amorce avec le lèse. Avec Bipolar, on lance un appel à témoins. Il y a tout un projet... d'enquête autour de cette affaire, hein, cette lettre anonyme qui témoigne en fait du ras-le-bol du lèse. Voilà, donc ça c'est la question du futur. On va aussi beaucoup parler du climat avec la fresque du climat et un spectacle sur le sujet. Donc Feu, Fête, Futur, Antigone le quartier, Antigone la rebelle, sans rendez-vous dans l'espace public, vendredi, samedi, tout est gratuit, en accès libre, des compagnies de Montpellier et de la région, bien sûr, et puis des compagnies venues d'ailleurs, des projets participatifs, voilà le programme.
Alors, l'inattendu, la surprise, est une des composantes des ZAT. Vous l'avez redit, le mot figure, je crois, sur l'affiche de la ZAT 2022. Habituellement, bon, on n'attend pas nécessairement la surprise. On choisit un film, un spectacle, une expo. Bon, on met ça dans son agenda personnel ou familial, puis on va dans ce lieu-là. Et là, il y a l'idée de surprendre les visiteurs.
Oui.
Est-ce que là aussi, c'est une caractéristique majeure des ZAD, telles que vous les avez conçues dès le départ? Et en tout cas, comment cette orientation se confirme cette année?
Alors, la surprise, c'est central. Quand je parle des ZAD, je dis, en une phrase, je dis spectacle et surprise urbaine. C'est une façon d'englober tout ce qui n'est pas exactement du spectacle, mais de la performance, voilà, des installations un peu inattendues, etc. Et puis, c'est l'idée générale aussi de la ZAD, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir à la ZAD, les mains dans les poches, sans avoir vu le programme. On sait qu'on va tomber sur des projets, des spectacles, voilà, on sait qu'on sera surpris si on ne regarde pas. Et même si on regarde le programme, d'ailleurs, il y a des surprises qu'on n'annonce pas.
Alors, le programme, je le désire... Il est accessible sur le site internet dédié zatmontpellier.fr.
Exact.
Il sera distribué version papier sur place, bien entendu.
Et puis il y a les réseaux sociaux.
Voilà.
Il y a Facebook, Instagram, etc. On peut suivre tous les jours. On poste énormément de messages, de films, de photos. Alors, il y a aussi une nouveauté dans cette ZAT, c'est la mini-ZAT.
Oui, destinée aux enfants.
Oui, voilà. Ça, c'est quelque chose que je proposerai maintenant dans chaque édition. C'est
avec 5 ou 6 rendez-vous de mémoire.
Oh là là, beaucoup plus que ça. Parce que là, on n'a même pas tout annoncé. C'est la place de Thessalie, en fait, qui est vraiment le royaume des enfants, avec une immense installation en bambou, qui est en train d'ailleurs d'être construite par la compagnie Mosso, une compagnie de la région. Donc des structures à escalader pour les enfants, à construire aussi avec les parents d'ailleurs, parce que c'est une structure évolutive. Et puis il y a un manège zinzin qui s'appelle le carrousel Titanos, qui est un manège un peu fou. Il y a la ville du chat obstiné, c'est un spectacle pour les 7-11 ans où on va partir à la recherche d'un chat. Il y a une boumzat à 17h30, il y a un goûter, on va zater des crêpes. Il y a nos partenaires, le musée FAB, les maisons pour tous, le pôle petite enfance de la ville de Montpellier et beaucoup d'autres encore qui vont proposer une multitude d'activités, Radio Mini-ZAT aussi. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est l'idée de faire une ZAT à hauteur d'enfant, avec les parents bien sûr, en proximité.
Hauteur d'enfant, je l'indique, qui est un des axes du projet de l'équipe municipale actuelle,
mais
pas seulement pour les écoles, mais pour les aménagements urbains, pour les déplacements dans la ville.
Comment ne pas faire une ville pour les enfants et avec les enfants? Je pense que c'est dans beaucoup de villes aujourd'hui, et Montpellier est en première ligne, une ambition très grande. Il faut adapter la ville aux enfants, la faire avec eux. Et dans la ZAT aussi, on pense, on l'avait déjà fait par le passé, mais là, beaucoup plus fortement, la place des enfants et l'imaginaire de la ZAT, c'est aussi un imaginaire pour et avec les enfants.
Alors, la ZAD, est-ce que c'est une manière de vivre la ville différemment du quotidien, notamment en donnant toute son importance à la rencontre, aux rencontres, hein, à une époque où nous avons vu les ravages provoqués par les confinements et, aujourd'hui, les dégâts suscités par les activités en distanciel, comme on dit. Est-ce que, modestement, ça ne dure que deux jours, mais il y a des effets différés, je suppose, qu'il y a cette idée de renouer, d'activer, d'enrichir la rencontre, les rencontres?
Ah, vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça la ZAD. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de la manifestation, c'est que les gens savent qu'ils vont rencontrer des artistes, bien sûr, mais des gens avec qui on va parler alors qu'on ne les connaît pas forcément. Vous savez, l'image de la première ZAD en 2010 pour moi, c'est les gens autour des braseros. Dès la nuit tombée, on se mettait les uns à côté des autres à discuter en regardant les braises et le scintillement du feu. Et ça, c'est très fort. Et ce n'est pas uniquement autour du brasero, c'est de manière générale une parenthèse dans la vie et dans la ville, une parenthèse enchantée, mais qui laisse des traces. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas juste un événement, la ZAT. C'est aussi une manière, une proposition de vivre la ville qui va nous inspirer, qui va nous amener peut-être à développer d'autres liens avec les autres et nous engager, encore une fois, parce que la ville, c'est aussi nous qui la faisons. Vous et moi. Et donc, quand on propose des façons d'être ensemble intéressantes, conviviales au sens habituel du terme, mais aussi au sens fort du terme, il y a un philosophe, Ivan Illich, qui a fait un livre dans les années 70 qui s'appelait La convivialité. La convivialité, c'est un concept politique. Hein, c'est-à-dire que c'est une manière d'être ensemble qui porte une vision de la société, une vision joyeuse, une vision heureuse, une vision où chacun a sa place et où chacun maîtrise les choses. Hein, la convivialité, c'est l'idée qu'on n'est pas instrumentalisé. On a une liberté en acte. Et donc,
une citoyenneté, je dirais, une forme de citoyenneté.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut prendre place. Vous voyez, effectivement, vous parlez de citoyenneté. On peut résumer, c'est un terme parfois un peu abstrait, la citoyenneté. C'est prendre place. C'est-à-dire comment chacun et chacune, les enfants, les plus âgés, tout le monde peut prendre place. Prendre place, ça veut dire ne pas se mettre là où on nous dit d'être, mais se mettre là où on veut, comme on veut, avec les autres. Il y a une dimension de liberté et d'utopie dans la ZAD aussi. C'est une bulle utopique qu'on ouvre dans la ville et qui, encore une fois, laisse des traces parce que c'est une façon de montrer qu'on peut faire autrement. On peut s'installer dans la ville, se déplacer, on peut lever les yeux, on peut s'allonger. On a une multitude de manières d'être en ville et avec les autres qui sont proposés dans les ZAD. C'est une expérience de la ville et une expérience sociale et culturelle de fait.
Alors, il y a une question qui vient, mais mériterait à coup sûr, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai des développements, mais je pense que ça peut constituer la dernière question, parce que ce que vous indiquez, ça ouvre, je dirais, vers la question des autres, ceux qui font la vie, les architectes, les paysagistes, hein, les urbanistes, et puis ceux qui la contribuent à la faire vivre, hein, les habitants, les associations. Un petit mot là-dessus, parce que ça me semble avoir été, vous l'avez un peu dit d'ailleurs à Jean-François Rigaudin, un des points saillants de votre manière de faire vivre la culture dans les espaces publics. Cette idée que ça dépasse le champ clos et des expertises bien segmentées des uns et des autres.
Oui, voilà, très simplement, ce qu'on porte avec la ZAD et le projet TransZAD, qui est une nouveauté aussi hein, cette année, c'est-à-dire un programme d'urbanisme culturel au long cours pour transformer la ville de manière durable, TransZAD. Au-delà donc du rendez-vous de la ZAD, c'est l'idée que la ville, on peut tous et toutes la faire. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des experts, des urbanistes, des ingénieurs, des services techniques et des architectes. C'est aussi les habitants, les usagers de la ville, ceux et celles qui vivent dans la ville, qui peuvent contribuer à la faire. Et donc on a besoin, je pense, de faire ensemble la ville, de porter ce qu'on appelle, nous, l'urbanisme culturel, ce qu'on a appelé dans les années 60 le droit à la ville. C'est un livre très important d'un sociologue qui s'appelait Henri Lefebvre, philosophe sociologue. Le droit à la ville, ça veut dire que la ville, c'est une question politique d'abord. Et donc, c'est comment chacune et chacun prend place, encore une fois, pour inventer cette communauté. Il y a deux sens au mot ville. Hein. La ville, c'est la cité. La cité au sens politique du terme, donc la communauté de celles et ceux qui vivent dans la ville. C'est le premier sens de l'urbanité, finalement. Et puis, c'est aussi la ville au sens dur, au sens spatial du terme. Donc, nous, on travaille entre le spatial et le social, entre le dur de la ville et, on va dire, le mou, c'est pas le bon terme, mais le vivant, tout simplement.
Oui, l'humain.
L'humain de la cité, voilà. Donc, c'est comment on articule l'humain et l'urbain, ou les deux dimensions de l'urbanité. L'urbanité au sens spatial et au sens social. Et encore une fois, de manière très simple, ça veut dire engager aussi un dialogue avec les professionnels de l'urbain. Quand même, il y a des gens dont c'est le métier, qui ont fait des études, qui ont des compétences très techniques. Mais pour amener cette part de l'imaginaire, de la singularité, de la poésie, des besoins, des envies, tout simplement, sur des choses extrêmement simples. Des espaces pour s'asseoir, de l'ombre, des paysages intéressants, des saveurs, des couleurs, des textures. Ce qui fait qu'on a un sentiment de joie à être ensemble, l'envie d'être dehors. C'est aussi la ville relationnelle. C'était le thème hier à Frontignan. Nous avions une rencontre avec la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée dans le cadre du cycle « Demain, l'espace public ». On fait tous les mois une rencontre. Et on a beaucoup parlé avec l'anthropologue suisse Sonia Lavadigno de cette question de la ville relationnelle. C'est-à-dire une ville où on a envie d'être ensemble, dehors, et qui est centrée autour des échanges et de la relation, autour de cette urbanité joyeuse, curieuse, conviviale. Et c'est ça notre enjeu. C'est évidemment déjà beaucoup le cas de Montpellier. La ville est déjà comme ça. Mais on veut amplifier cette dimension ou ces dimensions par les ZAD et par le programme TransZAD.
Merci. Écoutez, donc, partons à la découverte ou à la redécouverte d'Antigone, hein, revisitée, magnifiée peut-être. Et puis rencontrons-nous. Merci à vous.
Merci.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.